RFI, il est 7h en temps universel et à Abidjan.
Marion Cazanov.
Le journal avec Simon Bourtembourg à la une de cette édition. Une cérémonie très attendue à Abidjan.
Pour officialiser la rétrocession de la base militaire française de Port-Boué, les ministres ivoiriens et français de la défense sont sur place. Nous y revenons largement dans le dossier de ce journal. Les corps de 4 otages doivent être rapatriés en Israël. Un jour bouleversant, un jour de deuil, regrette Benjamin Netanyahou. Après le Hamas, le forum des familles d'otages confirme que les dépouilles des 2 enfants Bibas et de leur mères feront partie de l'échange. Aux États-Unis, c'était il y a un mois, jour pour jour, l'investiture de Donald Trump. Depuis, le monde vit au rythme des frasques et des décisions du président américain. Mais qu'en pensent ces citoyens issus de la classe moyenne? Reportage à suivre. Friedrich Merz dans le costume de chancelier et le sortant Olaf Scholz dans celui d'outsider. En Allemagne, les deux hommes s'affrontaient dans un ultime débat télévisé avant les législatives prévues ce dimanche. Et puis, du sport, du football et la prestation galactique de Kylian Mbappé avec le Real Madrid hier soir.
Une nouvelle étape de la reconfiguration de la présence militaire française en Afrique.
La base militaire française de Port-Boué va être rétrocédée à l'armée ivoirienne. Aboutissement de 2 ans de discussions, de préparation entre les autorités militaires et politiques des deux pays. Une cérémonie est prévue pour l'occasion aujourd'hui en présence du ministre ivoirien de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, et son homologue français qui est aussi à Abidjan. Nous sommes en ligne avec Binta Diagne. Vous êtes notre correspondante en Côte d'Ivoire. Binta, alors comment va se dérouler cette rétrocession?
Alors il y a 2 temps forts, hein. Sur la place d'armes, les 2 drapeaux français et ivoirien vont être baissés et seul le drapeau ivoirien va être relevé. Les autorités vont ensuite dévoiler le portrait du général de corps Thomas Ouattara Dakin, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le camp va porter son nom désormais. Puis les 2 ministres ivoiriens et français de la défense vont chacun prononcer un discours, des déclarations pour évoquer l'avenir de la coopération militaire entre les 2 pays.
Binta, qu'est-ce qui a permis d'arriver aujourd'hui à cette rétrocession?
Alors, tout est parti d'un changement de stratégie de la France annoncé il y a près de 2 ans. Paris a décidé de revoir son dispositif militaire en Afrique peu après le départ de Barkhane au Mali. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le 16 avril 2023, une commission mixte est créée. Son but, réfléchir aux aspects logistiques et juridiques de la rétrocession du camp militaire de Port-Boué. Les 2 parties l'assurent. Les discussions se sont faites de manière concertée et organisée. Depuis le 20 janvier, d'ailleurs, un détachement ivoirien composé de 90 parachutistes s'est installé dans le camp militaire de Port-Boué. Ce détachement prend ses marques avec à ses côtés des militaires français qui assurent une période de tuilage sur les équipements présents sur le site. À terme, une 100aine de militaires français devraient rester. L'accent va désormais être mis sur la formation, comme l'explique le colonel Hiver. C'est le commandant du détachement interarmé de Côte d'Ivoire.
On a longtemps été dans des détachements d'instruction pour des formations de base, ça c'est terminé. Aujourd'hui, le cœur de notre coopération, c'est des entraînements en commun. Et l'avantage d'un entraînement en commun, c'est que tout le monde apporte à tout le monde. Parce que c'est des occasions d'entraînement qu'on ne trouve pas ailleurs, parce que c'est des occasions de partage de savoir-faire qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Et c'est ça la vocation de la coopération de demain, c'est surtout des grands exercices.
Et à présent, Binta, que va devenir le camp militaire de Port-Boué?
Alors, ce camp abrite depuis janvier, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau des armées. Jusque-là, les officiers étaient formés à l'étranger. Cela va donc permettre d'en former davantage et sur place. Selon le ministre ivoirien de la Défense, un centre d'aguerrissement va aussi être créé. Ce centre va préparer les militaires avant leur départ en mission, notamment pour les opérations de maintien de la paix. Et puis, d'autres détachements ivoiriens devraient s'installer prochainement dans ce camp.
Binta Diagne en direct d'Abidjan pour ce dossier. Merci à vous. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur avancée. Ils semblent faire route vers Uvira, la 2e plus grande agglomération de la province du Sud Kivu, avec Bukavu déjà tombé dimanche dernier. La situation dans l'est congolais, sujet d'une 3e réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier. Si un appel à cesser les combats a été lancé, aucune proposition concrète n'est avancée. De son côté, Kinshasa continue de réclamer des sanctions sanctions contre Kigali et les rebelles du M23. À l'actualité du continent encore est la mort d'un monument du cinéma africain. Souleymane Cissé s'en est allé hier soir à l'âge de 84 ans. Le cinéaste malien laisse derrière lui une trentaine de films. Il restera à jamais le premier réalisateur d'Afrique subsaharienne à avoir reçu un prix, celui du jury au Festival de Cannes en 1987. À la une également, le Hamas qui doit remettre aujourd'hui à Israël 4 dépouilles d'otages de Gaza. Et parmi les corps, ceux de 2 enfants Bibas et de leur mère, devenus symbole de l'effroi qui a saisi Israël lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023. C'est la première fois depuis l'accord de trêve que des otages morts dans la bande de Gaza sont restitués par le Hamas. Un jour bouleversant, un jour de deuil, a déclaré le Premier ministre israélien. Pierre-Olivier, vous êtes pour nous sur la place des otages à Tel Aviv. Une place encore assez calme ce matin, mais Pierre, la remise des corps doit avoir lieu dans les prochaines minutes.
Oui, c'est une place assez calme et balayée depuis ce matin par de fortes averses, comme si finalement la météo épousait le ressenti de toute une nation ici. Car vous savez, c'est un jour très particulier pour les Israéliens. Ce ne sont pas des otages qu'on leur remet, mais bien 4 corps morts. Et il n'y a donc ici aucune raison de se réjouir. Et d'ailleurs, alors qu'habituellement les échanges sont retransmis en direct ici, place des otages sur des écrans géants, il n'y a ce matin ni écran, ni enceinte, rien du tout. Et pourtant, c'est tout un pays, tout un peuple qui se prépare à recueillir ses premiers corps depuis le début du cessez-le-feu mi-janvier. Et puis aussi peut-être les plus symboliques, puisque vous l'avez évoqué, parmi ces 4 corps se trouvent ceux de la famille Bibas et notamment 2 jeunes enfants qui ont été faits prisonniers à 8 mois et 4 ans.
Et Pierre, est-ce qu'on sait comment va se dérouler la suite de la matinée ?
Oui, alors une fois que le Hamas aura remis les corps à la Croix-Rouge à l'intérieur de la bande de Gaza, une cérémonie en présence du rabbin de l'armée israélienne se tiendra, là encore, dans la bande de Gaza. Et puis, des ambulances de l'armée transféreront les corps jusqu'à l'Institut médico-légal de Tel Aviv, où une équipe exceptionnelle de 10 médecins légistes réunis pour l'occasion travailleront à identifier le plus rapidement possible les défunts. Et puis, ce sera alors la même procédure que pour les soldats morts. Ce n'est qu'une fois les identités confirmées que les noms seront transmis aux familles et puis ensuite au public, a priori dans les heures qui viennent probablement, Simon.
Pierre-Olivier, en direct de Tel Aviv, merci à vous. Aux États-Unis, Donald Trump sur tous les fronts, un mois jour pour jour après son investiture. Le président américain qui œuvre à coups de déclarations fracassantes et de décisions choc. Si depuis son retour à la Maison-Blanche, le républicain a multiplié les décrets présidentiels pour mettre en œuvre son programme, les promesses, cette fois sur la lutte contre la vie chère, se font attendre. Reportage signé Edouard Maille.
Chad sort d'une boutique avec ses 3 chiens. Actuellement en recherche d'emploi, l'électeur de Donald Trump est ravi des dernières semaines, notamment pour la décision du président d'arrêter d'envoyer de l'aide au développement.
Je veux qu'on nous rende notre argent. On ne devrait pas être le gardien du monde entier. On doit s'occuper de notre propre pays avant de s'occuper des autres.
Aussi un électeur de Donald Trump, Ted pense qu'il est trop tôt pour constater les effets sur l'économie, mais doute de l'efficacité d'imposer des frais de douane voulus par le président.
C'est un problème, car il faut des usines pour remplacer ces biens qu'on importe. Et elles ne sont pas en place, donc ça va augmenter les prix.
Danielle termine son déjeuner avant de retourner au travail. Elle ne regrette pas d'avoir voté pour le président, mais a tout de même quelques réserves.
Honnêtement, je suis assez surprise de la vitesse à laquelle il change tout. Ça m'effraie un peu. Comme pour le Golfe de l'Amérique, je ne savais pas quel était l'intérêt de changer le nom. Je trouvais ça assez drôle, mais ensuite il l'a vraiment fait.
Elle s'inquiète aussi de possibles réductions des aides publiques et programmes sociaux, elle qui en a bénéficié par le passé. Édouard Maille, commerce en Géorgie, RFI.
Et depuis son retour à la Maison-Blanche, le dossier de l'immigration apparaît comme prioritaire pour Donald Trump. Juste après son investiture le 20 janvier dernier, le républicain signait un décret pour fermer l'application CPB One, un outil pourtant essentiel afin de demander l'asile aux États-Unis et entrer légalement sur le territoire. Alors depuis un mois, les migrants coincés au Mexique ont dû improviser quand les portes de leurs rêves américains se sont refermées. Marine Le Bègue.
Dans le nord de Mexico, des cabanes de bois s'alignent au bord d'un chemin de fer désaffecté. Leslie, une Vénézuélienne de 27 ans, espérait quitter définitivement le petit abri qu'elle partage avec 6 autres personnes.
Ça faisait si longtemps, quasiment 4 mois, que j'attendais de recevoir ce rendez-vous. Quand je l'ai enfin reçu le 17 janvier, ce fut une joie immense. Mais elle n'a duré que 3 jours. On n'a même pas pu se faire rembourser les billets d'avion achetés pour aller à la frontière. On s'est retrouvés ruinés. Tout ce qu'on avait économisé, on l'a dépensé dans notre billet d'avion. On a perdu tout cet argent et maintenant, on n'a pas d'autre choix que de travailler.
Et recommence à économiser en espérant pouvoir bientôt entrer aux États-Unis. Parce que pour Leslie, comme pour sa voisine Candy, pas question de rester au Mexique ou pire, de rentrer au Venezuela.
Non, au Venezuela, non. Ce serait retourner en arrière, échouer et se retrouver de nouveau dans ce trou où on était et dont il a été si difficile de sortir. Je ne veux pas non plus croire qu'on va rester au Mexique parce que j'espère qu'ils trouveront un nouveau moyen pour nous faire entrer légalement aux États-Unis. Il faut attendre encore un peu et voir ce qu'il se passe. En attendant, travailler et essayer de survivre parce que la vie est dure ici.
Mais attendre combien de temps ? S'il le faut, encore une année, assure Candy, ou le temps qu'il faudra pour atteindre ce rêve qui nous a fait partir de chez nous. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
RFI, 8h11 à Berlin, l'Allemagne qui s'apprête à prendre un virage à droite. Les élections législatives ont lieu dans 3 jours dimanche. Les Allemands ont appelé aux urnes pour un scrutin sous forme de duel entre Olaf Scholz et Friedrich Merz. Les deux principaux candidats à la chancellerie s'affrontaient hier dans un débat télévisé, le dernier. Friedrich Merz, a favori des sondages, n'a pas manqué de rappeler son statut face au chancelier social-démocrate sortant, Pascal Thibault.
À nouveau, c'est une rencontre à front renversé qui a eu lieu. Donnée battue depuis des mois avec un score pour les sociaux-démocrates 2 fois moindre que celui des conservateurs, Olaf Scholz était le challenger de ce débat. Le chancelier dos au mur n'a plus rien à perdre et attaque régulièrement son adversaire. Friedrich Merz, serein, se présente déjà comme le gagnant, avec le risque peut-être de faire preuve de trop d'arrogance.
Monsieur le chancelier, sans un miracle dans les 4 prochains jours, votre mandat devrait s'achever dimanche soir.
Olaf Scholz, qui espérait que, comme en 2021, il pourrait, dans la dernière ligne droite, permettre à son parti d'effectuer une remontée spectaculaire, n'a pas réussi. Son impopularité est trop importante. La rédactrice en chef du quotidien Bild, qui roule pour Merz, évoque le bilan catastrophique du gouvernement sortant. Scholz n'a pas d'autre choix que d'afficher son optimisme.
Je crois que beaucoup d'électeurs sont indécis et choisiront finalement le SPD pour me confier la direction du futur gouvernement.
Le chancelier doit serrer les dents et écouter les animateurs interroger Friedrich Merz sur ses futurs partenaires de coalition. Les sociaux-démocrates pourraient jouer ce rôle, mais Olaf Scholz a déjà exclu d'être ministre d'un chancelier Friedrich Merz. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Du football et un international français, roi de la soirée d'hier en Ligue des Champions, Kylian Mbappé galactique avec le Real Madrid, auteur d'un triplé à Bernabeu. L'attaquant est le grand artisan de la qualification du Real pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Merengues se sont imposés 3-1 face à Manchester City. Kylian Mbappé est donc lui bien revenu à son meilleur niveau. Cédric De Oliveira.
Javi connaît bien Santiago Bernabeu et il en a vu des succès du Real, mais il se souviendra longtemps de cette soirée et de la démonstration du numéro 9 madrilène.
Je l'avais dit avant le match, j'avais un pressentiment pour Mbappé. Attention, il va marquer 3 buts. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Boum, triplé. C'est le meilleur joueur du monde et celui qui dit le contraire ne connaît rien au foot.
Déjà décisif à l'aller, Mbappé a marqué sur son premier ballon 3 buts au total, une première avec son nouveau club en Ligue des Champions, avant de sortir ovationné par le public de Santiago Bernabeu.
C'est un plaisir, bien sûr, quand les gens sont contents de ce que tu as fait, qu'ils ont vu que tu as été performant. Mais on avance, on est en 8e de finale et on veut gagner tous les titres possibles maintenant.
Ambitieux Mbappé qui marche sur les traces des plus grands, pourquoi pas faire comme Cristiano Ronaldo ? Pour son entraîneur Carlo Ancelotti, c'est possible.
Il a ce qu'il faut pour atteindre ce niveau. Ça ne va pas être facile, Cristiano a mis la barre très haut. Mais avec ses qualités et son enthousiasme, s'il travaille, il peut y arriver.
Avec le Portugais, les Merengues avaient gagné 4 Ligues des Champions. Pour l'instant, Mbappé en est encore loin, mais sa soirée a rappelé pourquoi il avait signé au Real, plus que jamais favori pour remporter le trophée. Cédric de Oliveira, Madrid, RFI.
Le Real Madrid qui connaîtra son adversaire en huitième de finale vendredi, jour du tirage au sort qui aura lieu à Nyon en Suisse. A noter également hier la qualification du PSG qui a écrasé Brest 7-0. Le Borussia Dortmund et le PSV Eindhoven seront également au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
C'était le journal de Simon Bourtembourg. Il est 8h15 à Paris, 7h15 en temps universel. À suivre sur RFI, le reportage international à la rencontre de partisans de Donald Trump, ravis, galvanisés même par son premier mois à la Maison Blanche. Ils se retrouvent en ce moment à la CPAC, rendez-vous du Parti républicain à Washington, et saluent notamment les coupes budgétaires du président. On parlera ensuite avec notre correspondante dans les pays nordiques d'une des conséquences de ces coupes, le gel de l'aide étrangère à laquelle tente de pallier par exemple la Norvège. Et puis les PFAS, les polluants éternels, sont-ils suffisamment réglementé? C'est la question d'environnement de ce matin. On verra que les lobbies sont à la manœuvre et qu'on manque encore d'alternatives pour les remplacer. La revue de presse internationale à présent, Frédéric Couteau, à la une, les 30 premiers jours de Trump au pouvoir.
100 jours, c'est le temps qu'il faut généralement avant de pouvoir juger l'action d'un gouvernement, relève le quotidien Le Soir à Bruxelles. Mais avec Donald Trump, 30 jours ont suffi pour qu'on ait le sentiment non seulement que les États-Unis ont totalement changé, mais que nous avons tous basculé dans un nouveau monde. On ne sait quel moment épingler pour exprimer cette stupéfaction, s'exclame le quotidien belge. Les négociateurs russes attablés avec les Américains pour discuter du sort de l'Ukraine, cette riviera à construire sur les gravats et les cendres de Gaza, le vice-président Vance humiliant en direct les Européens et crachant sur leurs valeurs, ou encore Elon Musk et ses Tech Boys fracassant façon Die Hard le cœur de l'État américain et terrorisant des milliers de fonctionnaires par une chasse aux sorcières 3.0. Impossible de choisir, tant un moment succède à l'autre à une vitesse folle. Sous Trump premier, relève encore Le Soir, les Européens se réveillaient le matin en se demandant « qu'a-t-il tweeté pour Trump 2 ?» La question au réveil est « qu'a-t-il décidé ? Un cessez-le-feu, des tarifs douaniers, une expulsion, une annexion, des négociations ou encore la suppression des pailles en carton ?» Tout est imaginable.
Trump, après un mois, le déluge rebondit. Libération à Paris.
En fait, Trump a appliqué le principe de l'inondation de la zone, cher à son ancien gourou Steve Bannon, constate le journal. On submerge les médias, les adversaires politiques et les dirigeants internationaux d'annonces tonitruantes afin de les tétaniser. De fait, l'Amérique est tétanisée, car elle a pour ainsi dire hérité de deux Donald Trump pour le prix d'un. Et ça n'était pas prévu, pointe Libération. On savait que le patron de Tesla, Elon Musk, était l'un de ses plus fervents soutiens. On n'imaginait pas qu'il deviendrait une sorte de président bis, détruisant de l'intérieur l'administration américaine comme on donne un coup de pied dans un château de sable, avec un plan bien défini en tête, briser tous ceux qui peuvent nuire à son business. Le business, voilà le maître mot de ce nouveau mandat, s'exclame encore Libération. Tout est ramené à l'argent, qu'il s'agisse de Gaza, appelé à devenir la Riviera du Moyen-Orient avec des gratte-ciels pour hommes d'affaires, ou encore de l'Ukraine, dont les sous-sols gorgé de terres rares pourrait servir à rembourser les milliards investis dans la guerre par l'administration Biden. Les humains ne comptent plus, seul subsiste le pouvoir de la machine et du billet vert.
Quand les États-Unis connaissent le prix et ignorent les valeurs, renchérit le Guardian à Londres.
Oui, pour Trump, ces deux intérêts principaux, l'argent et le pouvoir, sont non seulement interdépendants, mais également interchangeables, tout comme les objectifs des États-Unis et ses intérêts personnels lui semblent souvent indissociables. N'a-t-il pas créé sa propre crypto-monnaie quelques jours avant de revenir à la Maison Blanche? Lorsque Trump évoque l'avenir de l'Ukraine ou de Gaza, poursuit le Guardian, il ne parle pas de droits de l'homme et de sécurité, de vie et de foyer, mais il parle respectivement de l'acquisition par les États-Unis de 500 milliards de dollars de minerais et d'un grand complexe immobilier. Il croit en la nécessité de conclure des accords, pas de faire la paix.
La revue de presse internationale, signée Frédéric Couteau. RFI 8h19 à Paris. On revient ce matin sur les 30 premiers jours de la présidence Trump. 30 jours marqués par des décrets à tout va, la menace d'une guerre commerciale et de nombreux commentaires sur l'actualité internationale. Un bilan des liens bien fournis que viennent célébrer les Républicains à l'occasion de la CPAC, grande conférence annuelle du Parti conservateur qui se tient en ce moment à Washington. Les Trumpistes sont particulièrement galvanisés par le démantèlement de l'État fédéral avec son allié Elon Musk. Reportage à Washington de David Thompson.
Retraitée venue du Texas, Suzanne résume le sentiment d'enthousiasme général partagé par les partisans de Donald Trump croisés dans les allées de la CPAC de Washington.
C'est Noël tous les jours, c'est ce que je me dis en me réveillant. Même si la moitié des réformes ne voit pas le jour, c'est génial.
CPAC, cette grande kermesse annuelle entièrement dédiée au culte de Donald Trump, ses partisans sont encore plus galvanisés qu'à l'accoutumée, tous émerveillés par son bilan. Grand-mère du Delaware, Robin se réjouit du démantèlement en règle de l'État fédéral qu'elle préfère appeler l'État profond et dont les fonctions serait selon elle corrompu, inutile et inféodé aux démocrates.
Il affronte ce que tout le monde appelle l'État profond. On a voté pour élire le président des États-Unis, le Sénat et la Chambre, mais on n'a pas élu l'État profond. Et pourtant, ce sont eux qui dirigent notre pays. Mais ils n'ont pas plus le droit de diriger ce pays que moi. Je suis une électrice, je n'ai pas voté pour ces personnes, je n'ai pas choisi ces gens de l'État profond.
Et selon cette designeuse d'intérieur retraitée, Elon Musk serait l'homme de la situation.
Je ne peux pas imaginer meilleure personne pour faire ce travail. Il n'est pas impliqué dans le jeu. C'est l'homme le plus riche du monde. Il n'a rien à voir là-dedans. Je ne sais pas s'il fait ça par altruisme ou par amour de l'Amérique, mais je pense qu'il déteste le gaspillage d'argent public. C'est un homme d'affaires. Il est comme Trump. En bon homme d'affaires, il sait qu'on ne peut pas diriger une entreprise et avoir des déficits comme ceux de l'Amérique et réussir.
Et Donald Trump promet de redistribuer aux Américains 20% de l'argent économisé par les coupes budgétaires d'Elon Musk. Nathalie, retraitée elle aussi, compte beaucoup sur ses retombées.
L'argent de nos impôts a été détourné. J'ai de la famille qui est âgée et cet argent pourrait être utilisé pour ces gens qui sont en fin de vie pour qu'ils n'aient pas à vivre avec seulement 2000 dollars par mois.
Après un mois à la Maison Blanche, le bilan de Donald Trump comble autant ses partisans qu'il tétanise l'autre Amérique, celle qui n'a pas voté pour lui. David Thompson, Washington RFI.
Le reportage international à réécouter sur notre site rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. On l'a vu tout à l'heure dans la chronique, aujourd'hui, l'économie, c'est l'une des mesures de Donald Trump qui a déjà eu un impact concret. Et on l'évoquait dans le reportage international, le gel de l'aide étrangère pour 90 jours qui met en difficulté le fonctionnement de dizaines d'ONG. Pour pallier ce manque, certains pays débloquent des fonds. C'est le cas par exemple pour la Norvège. Ottilia Ferré, vous êtes notre correspondante dans les pays nordiques. Bonjour.
Bonjour.
Ottilia, à combien s'élève le montant de cette aide norvégienne ?
Alors, 162 millions d'euros sur 5 ans, c'est l'enveloppe que la Norvège a prévu de consacrer à ses ONG, 6 au total. Ces accords de financement pluriannuels visent à améliorer la visibilité financière des ONG affectées et ils devraient être signés dans les semaines qui viennent.
Et on comprend donc que les ONG norvégiennes, elles aussi, étaient dépendantes en partie de l'aide étrangère des États-Unis.
Oui, tout à fait. À ce niveau-là, la Norvège ne fait pas exception. Parmi les ONG concernées par ces nouveaux accords, on trouve par exemple le Conseil norvégien pour les réfugiés. 20% de son budget total venait de l'aide américaine en 2024. L'ONG avait récemment annoncé qu'elle allait devoir, comme beaucoup d'autres, suspendre des activités dans près de 20 pays à la fin février. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a cependant précisé que cette aide du gouvernement norvégien faisait partie de fonds humanitaires déjà budgétés. Elle ne remplacera donc pas l'aide financière des États-Unis. Cet accord a en effet été conçu pour fonctionner en parallèle avec les fonds américains et ne suffira donc peut-être pas à combler le vide laissé par l'USA.
Et quels autres organismes, Ottilia, sont concernés par ces nouveaux accords ?
Alors, on peut mentionner Norsk Folkehjelp, par exemple, une ONG spécialisée dans les opérations de déminage. C'est un peu le même son de cloche ici. Plus de 40% de son financement provenait de l'aide étrangère des États-Unis, à savoir 41 millions de dollars. Le 11 février, l'organisme avait annoncé devoir réduire ses effectifs de plus de moitié et licencier 1700 employés dans 12 pays. Le secrétaire général de l'ONG avait déclaré, je cite, que plus de 40% du financement pour le déminage et le nettoyage des explosifs disparaissent du jour au lendemain est dramatique pour nous et notre travail. Avant de continuer en rappelant que le coût le plus élevé est celui payé par les enfants, les agriculteurs et les communautés locales. L'organisme était jusque-là présent dans 21 pays dont l'Ukraine, l'Afghanistan, l'Irak ou encore le Cambodge. Un demi-million de personnes pourraient être donc directement impactées. On rappelle que l'USAID gère un budget de 40,8 milliards d'euros qui à lui seul représente 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde entier.
Ottilia Ferré, correspondante de RFI dans les pays nordiques. France, les députés devraient voter tout à l'heure une loi portée par les écologistes pour interdire certains polluants éternels. On les appelle PFAS et on en retrouve dans les cosmétiques et les textiles notamment. Ce matin, dans la question d'environnement, on se demande justement si ces PFAS, au-delà du cas français, sont suffisamment réglementés. Pauline Glaise, avant de répondre à cette question, peut-être un petit rappel sur ce que sont ces PFAS.
Eh bien Marion, ce sont des molécules qui cumulent les superlatifs. Elles ont des noms super compliqués à prononcer. Ce sont des substances per- et polyfluoroalkylées. Les PFAS ont de super pouvoirs. C'est un PFAS qui rend les poils anti-adhésives. Ils sont utilisés dans les avions et les éoliennes pour leur résistance aux températures extrêmes et à la corrosion. Et c'est pour ces mêmes raisons qu'ils sont super durs à éliminer, d'où leur petit nom de polluants éternels. Or, au moins certains d'entre eux sont reconnus ou suspectés d'être cancérogènes ou encore de provoquer des lésions au foie, par exemple. Mais pour l'instant, ils ne sont pas super réglementés, même si progressivement des restrictions se mettent en place. Et il y en aura donc davantage en France dès 2026 si les députés adopte la loi, loi qui n'étend pas l'interdiction aux ustensiles de cuisine comme le souhaitaient initialement les écologistes.
Mais Pauline, la France pour autant n'est pas la première à agir.
Certains pays ont déjà pris des mesures. Emma Feilleux de l'association Notre Affaire à Tous cite quelques exemples.
Au Danemark, en 2020, le gouvernement danois a interdit les PFAS dans les emballages alimentaires. En 2024, le Danemark a ensuite promulgué une interdiction pour importer, vendre et utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent des PFAS. On retrouve par exemple en Californie la même interdiction des PFAS dans les mousses anti-incendie. On retrouve dans le Maine une interdiction des PFAS dans tous les textiles à partir de 2030. À Washington, une interdiction depuis 2023 des PFAS dans les emballages alimentaires.
Quelques polluants éternels, les PFOA ou les PFOS, sont réglementés au niveau international. Cela comprend des restrictions ou des interdictions.
Le coût de la dépollution s'annonce faramineux, en particulier si on n'arrête pas d'en produire. Alors pourquoi est-ce que les réglementations ne vont pas plus loin aujourd'hui?
En partie pour des raisons économiques de court terme. Le mois dernier, une enquête d'une trentaine de médias européens a pointé du doigt le poids des lobbies pour édulcorer, voire tuer dans l'œuf un projet européen d'interdiction. Autre difficulté, Marion, bien que la problématique des PFAS ait pointé le bout de son nez il y a déjà plusieurs décennies, elle nécessite encore beaucoup de recherches pour trouver des alternatives et pour mieux les connaître. Et puis, les PFAS sont aussi super nombreux, il en existe des milliers.
La recherche, souvent, se concentre sur un petit nombre de ces molécules. Et donc, on va, par exemple, étudier le lien entre cancer du sein et PFOA. Mais il y a quand même un fort consensus scientifique qui appuie le fait que même si les études concluent sur une molécule par rapport à une maladie, on doit aujourd'hui réfléchir par famille.
Et il arrive qu'un PFAS soit substitué par un autre. Si la réglementation est donc encore en cours d'évolution, Marion, les polluants éternels se sont déjà retrouvés au cœur de litiges judiciaires. En Italie, un procès est en cours. Aux États-Unis, le groupe 3M a accepté il y a quelques années de verser jusqu'à 12,5 milliards de dollars, et ce pour mettre fin à des poursuites.
La question d'environnement de Pauline Glaise, votre chronique et toutes les autres est à retrouver sur notre site rfi.fr. Vous pouvez aussi la réécouter sur notre application Pure Radio. Dans un peu plus d'une minute maintenant sur RFI, c'est le retour de l'actualité africaine.
RFI, la sélection du mois.
Voodoo Game. Thomas Sidibé.
Thomas vous fera fina na au fait. L'enfant béni de la Tiabougou et la Diamé. D'ailleurs, Chila, n'était bougé Hamada.
RFI Musique.
Tout à l'heure sur RFI.
8 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
À l'occasion de la conférence mondiale sur la sécurité routière, comment améliorer l'état des routes et des infrastructures en Afrique? Nous parlerons des feux tricolores, des passages piétons, des panneaux de limitation de vitesse, des ronds-points, des glissières de sécurité. Bref, comment aménager des routes plus sûres pour favoriser les déplacements de tous les usagers africains?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Prix Goncourt en 2016, Leïla Slimani vient de mettre un point final à 1200 pages d'une saga romanesque qui raconte l'histoire du Maroc à travers trois générations. Un dernier volume intitulé « J'emporterai le feu » où cette fois on entend la voix de Mia, née dans les années 80.